Viu a... Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Les femmes leaders sont de plus en plus nombreuses dans la plupart des pays, mais leur présence au poste de décision est encore faible de manière générale. Comment accélérer le processus? Faut-il inculquer l'esprit du leadership féminin aux filles dès la petite enfance? Quel environnement peut permettre leur épanouissement en ce sens? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir avec deux invités. Oumuba, spécialiste en genre, initiatrice du sommet des femmes leaders à New York, cofondatrice de l'école Académie Solidarité de Bambeto à Conakry en Guinée. Oumu, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie de me recevoir.
Et nous avons également Kumba Ba, communicante en genre au Mali, initiatrice de la radio-télé Musoya, conférencière en motivation, qui travaille également pour ONU Femmes. Kumba, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci infiniment Nathalie, c'est moi qui vous remercie.
Alors mesdames, on va commencer par écouter une petite réflexion, notamment d'une Camerounaise, c'est Rabiatou Mbama, elle est ingénieure forestière.
Ne te compare pas à lui, c'est un garçon. C'est avec cette phrase que nos mamans nous ont fait croire pendant des années que nous, les femmes, sommes inférieures aux hommes. C'est malheureux parce que aujourd'hui encore, beaucoup de mamans continuent à le faire, à rabaisser leur petite fille et à nourrir en elle un profond sentiment de complexe d'infériorité. Le plus douloureux pour moi, c'est que beaucoup de grandes femmes, futures leaders, sont mortes ainsi, bâillonnées par une éducation injuste qui ne donne que le second rôle à la femme et par une société condescendante qui regarde tout en silence. J'y ai cru moi-même. J'ai vraiment cru que j'étais inférieure, que je ne pouvais pas entreprendre toute seule, que je devais attendre, avant toute action, le consentement d'un père, l'appui d'un frère ou même l'autorisation d'un mari. Et il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu beaucoup de lectures pour briser ce sentiment et oser affronter la vie et ses défis, non pas comme un homme ou une femme, mais simplement comme un être humain qui jouit de ses droits. Aujourd'hui que je suis mère, j'ai décidé de ne pas commettre la même erreur avec mes filles. Alors un grand oui, oui, il faut inculquer le leadership aux petites filles très tôt, dès l'enfance. Elles doivent apprendre et grandir avec la confiance en elles et être sûres qu'elles peuvent et doivent réaliser de grandes choses dans ce monde. Plus tard, je pense pour ma part que c'est trop tard.
Voilà, c'était la réflexion de Rabiatou Mbama. Elle est ingénieure forestière au Cameroun. Oumu Kumba, vous avez entendu, on va commencer tout d'abord par Oumu. C'est un témoignage vraiment très touchant. Moi, je le trouve extrêmement touchant. On a tout entendu quelque chose comme ça, même si c'est pas dit directement. On l'entend dans des expressions, dans des attitudes. Donc, Oumuba, comment éviter le complexe d'infériorité vis-à-vis des garçons et des hommes qui est bien connu des femmes en général?
Merci beaucoup pour cette question et puis je remercie infiniment Madame Rabi de construire cette construction qui a été mise en place depuis des décennies. Qu'elle-même décide maintenant de ne pas inculquer ces genres de valeurs dans les formations de ses enfants. Je pense qu'il est très important d'inculquer dès le bas âge que l'importance des opinions des jeunes filles, les encourager à s'aimer elles-mêmes et puis participer aux débats, soit des débats de familiaux ou débats qui concernent leur vie très tôt. Et aussi créer un espace pour elles de s'exprimer librement et ouvertement, sans que nous, surtout les parents, parce que tout commence dans la famille. Les parents doivent être conscients qu'ils doivent vraiment aider les jeunes filles surtout à avoir cette équité de mentalité en grandissant.
Merci beaucoup Mouba. Koumba, les motivations au sein de la famille, vous êtes justement conférencière en motivation. Comment on motive son enfant, en particulier sa petite fille, au sein de la famille pour qu'elle vraiment aille au maximum de son potentiel?
Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est d'abord Rabiatou, d'être le changement qu'on veut voir. Donc, elle a décidé de briser ce cycle infernal. Elle a décidé de casser le stéréotype. Et c'est vraiment malheureux parce que si on entend le témoignage de Rabiatou, celle qui devait la motiver à être plus forte, à embrasser le monde, à aller au-delà de toutes ses limitations, c'était sa maman, et malheureusement, sa maman pensait autrement. Justement, pour changer, il faudrait que nous, qui sommes mamans, nous qui avons l'opportunité d'élever nos enfants, que nous les élevons en toute neutralité, sinon que nous les élevons même en toute puissance, en vraiment les autonomisant, en les renforçant, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles puissent vraiment s'épanouir. Et comme on le dit, le ciel est le limite. Le ciel n'est plus les limites. C'est l'espace qui est ouvert, et l'espace est pleinement ouvert pour toutes les petites filles. Et ceci doit être inculqué dans nos mentalités dès le très bas âge, et le papa et la maman doivent tout faire pour protéger l'enfant, pour que l'enfant, dès le bas âge, s'épanouisse pleinement dans son environnement. Et bien sûr, l'école et la société.
Alors, on va aborder toutes ces questions-là. On a beaucoup de réflexions de femmes leaders aujourd'hui que je voudrais qu'on écoute, notamment Makalé Camara, qui est la présidente de la Guinée en politique. Une femme extraordinaire, ancienne ministre, ancienne diplomate. On l'écoute.
La LGP, la Guinéenne en politique, rentre d'une tournée maintenant de l'intérieur du pays pour aller donner des cours de leadership, de communication numérique, de communication stratégique, de prise en parole, voire même la macroéconomie. Il faut donc que les femmes soient outillées pour satisfaire à cette demande majeure que nous souhaitons, qui est la parité. La LGP est en train de créer LGP Junior. Nous voulons que les filles, les petites filles déjà au lycée, à l'université, mais voire même le collège, puissent être dans le sillage des femmes leaders afin de copier et de les prendre comme exemple, comme rôle modèle. La capacitation de la femme est essentielle aujourd'hui pour qu'elle puisse atteindre tous les postes. D'ailleurs, celles qui sont en capacité, bien évidemment, n'ont pas la récompense de leurs compétences pour obtenir des postes de responsabilité, des postes de commandement, des postes de décision. Et la Guinée qui ira vers des élections tout azimut, nous sommes en train de préparer les femmes, nous sommes en train de parler aux femmes, nous sommes en train de donner des outils aux femmes aujourd'hui pour qu'elles puissent être prêtes pour les prochaines échéances électorales.
C'était l'ancienne ministre et diplomate guinéenne Makalé Camara, présidente de la Guinée en politique. Et je voudrais qu'on écoute tout de suite une autre ancienne ministre du genre, notamment en République démocratique du Congo. C'est Marie-Louise Musenga. Elle est entrepreneur sociale et elle était ministre du genre dans la province de Lualaba. On l'écoute.
Femmes leaders, c'est vrai, elles sont nombreuses dans plusieurs pays. Mais dans les postes de prise de décision, la plupart ne pensent même pas y accéder. D'autres n'ont pas le moyen d'y accéder parce que ça semble un territoire verrouillé aux femmes. Les lois de tous les pays aujourd'hui permettent à ce que la femme puisse y avoir accès. Mais l'application sur terrain, l'environnement politique, dans les pays. Le comportement politique et des femmes et des hommes et des gouvernements ne permettent plus à la femme de monter. On peut tout faire, on peut inculquer même aujourd'hui dans les écoles, dans la femme, tout ce qu'il faut, mais il faut que la femme maintenant s'élève pour une révolution massive, une révolution mentale, intellectuelle, une synergie générale. Donc les femmes doivent changer aussi dans leur propre parti politique, cette discipline-là qui les empêche à ce qu'elles prennent des décisions pour voter femmes, pour voter avec les femmes et pour marcher avec les femmes.
Oumouba, vous avez entendu hein, ces réflexions et particulièrement donc Marie-Louise Moussenga hein, qui parle de territoire verrouillé aux femmes et finalement d'un type de comportement à l'intérieur même du système, hein, une certaine façon, quelque chose qui peut être officialisé, on va dire, d'une certaine manière. Comment, à la petite enfance, peut-on prévenir la petite fille? Lui dire voilà dans quoi tu vas te retrouver quand tu seras grande. Donc c'est pas seulement fais attention, c'est tu dois aller au-delà, tu dois dépasser tout cela.
Effectivement, j'ai mentionné plus tôt que c'est une construction qui a été mise en place depuis des années. Donc, pour vraiment déconstruire ça, il va falloir que nous inculquons dès le début aux petits enfants les outils avec toutes les opportunités, tous les accès, et puis les faire comprendre que sauf leur auto-entrave qui peut vraiment les empêcher à accéder à certains niveaux. Et une fois qu'ils sont, parce que la plupart du temps aussi, je sais que c'est un combat qui a été mené il y a des années et puis on est en train d'avoir, il y a un progrès dans ce processus. Mais ce que aussi j'encourage les femmes qui sont dans des instances de prise de décision, c'est aussi être plus consciente à ouvrir ou promouvoir les femmes leaders qui sont capables, compétentes pour faire le travail. Parce que une fois qu'on est à l'intérieur, il faut ouvrir la porte, il faut créer des environnements pour que ces femmes-là aussi émergent. Que ce soit des promotions latérales ou des promotions avec une génération montante, c'est à nous maintenant de créer cet environnement. Et je sais que c'est pas, je veux pas vraiment donner toutes ces responsabilités aux femmes. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, moi je crois à cette synergie que cette la dernière la dame a mentionné, synergie, la collectivité des différentes perspectives, parce que si ces femmes ne sont pas sur la table de décision, on est en train de perdre toute une partie d'opinion qui pouvait vraiment nous avancer et puis développer le pays ou le monde.
Kumba, vous avez parlé tout à l'heure du rôle des mamans, mais moi je voudrais bien savoir ce qu'il en est du rôle des papas aussi, finalement, hein, dans l'épanouissement de la jeune fille, parce que le papa, c'est un leader d'une certaine manière, on va dire, qui a plus de facilité, puisqu'il est beaucoup plus intégré dans la société, puisqu'on est dans une société patriarcale. Donc le papa est un exemple, comment peut-il servir d'exemple à sa petite fille?
J'ai parlé, Serge, du rôle de la maman parce que c'est celle qui est proche des enfants depuis leur enfance jusqu'à au minimum l'âge de 7 ans. Mais j'ai aussi conclu qu'il fallait que et le papa et la maman œuvrent ensemble, particulièrement dans notre contexte en Afrique, spécialement en Afrique subsaharienne où la société reste prédominantement patriarcale. Donc si quelqu'un a un rôle à jouer, c'est bien le père pour qu'on puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, si les deux voix se lève, c'est celle du papa qui prépondère. Donc, si la femme, quelle que soit sa motivation aujourd'hui, en tant que dominée, en tant que sous ordre, elle ne peut briser ses chaînes qu'avec le soutien et la participation des papas et des pères, des grands frères des fois. Des fois, c'est même des fils. Et ça, c'est très, vraiment triste. Parce que, on voit, on enfante les garçons même qui sont venus de nos tripes. À un certain âge, quand ils deviennent majeurs, on est sous leur tutelle. Et ça, c'est dramatique. Effectivement, le changement que nous visions par rapport à l'égalité, par rapport aux sociétés plus justes, à la complémentarité entre hommes et femmes ne peut être accompli sans le soutien et la pleine participation des hommes.
Merci beaucoup. Écoutons à présent Annie Matundu de la République démocratique du Congo. C'est la représentante Afrique de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.
Il faut inculquer l'esprit du leadership féminin aux filles dès la petite enfance. Cela est très bénéfique. Ça permet de développer leur confiance en elles, leur capacité à prendre des initiatives et à s'affirmer dans divers contextes. Par exemple, le renforcement de la confiance en soi, en encourageant les filles à prendre des responsabilités et à exprimer leurs idées. Dès le plus jeune âge, on les aide à développer une forte estime en soi. Et quand on parle aussi de l'égalité des genres, cela aide à promouvoir le leadership féminin dès l'enfance, à combattre les stéréotypes genre et à favoriser une société égalitaire. Cela aussi peut aider pour avoir les compétences de leadership acquises tôt. Cela peut aider les filles à réussir dans leurs études et leur carrière future. Et enfin, en exposant les filles à des modèles féminins de leadership, elles peuvent se projeter dans des rôles de responsabilité et de l'influence.
Et on va écouter tout de suite une autre ancienne ministre du genre de la République démocratique du Congo. C'est Faïda Mwangilwa. Elle est dans le Nord Kivu.
Il y a bien sûr des avancées. Je dois le dire, pour la première fois en République démocratique du Congo, il y a eu nomination d'une femme au poste de premier ministre. Mais moi, je crois que nous devons profiter de cette opportunité-là. Et moi, je vois, par exemple, dans les secteurs de sécurité, au sein des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, au niveau de la police nationale congolaise, nous devons tout faire pour que des jeunes filles puissent s'enrôler au sein des FARDC et au sein de la police. La présence des femmes au niveau des postes décisionnels, surtout au niveau des secteurs de sécurité, ça crédibilise les services parce que pour la plupart des cas, en tout cas, les femmes font très bien leur travail.
Voilà, c'était donc Faïda Mwangilwa en République démocratique du Congo. Oumuba, au niveau du mentorat, on sait quand même que dans les familles, il y a une certaine forme de mentorat naturel, que je pourrais appeler peut-être appeler comme ça. Il y a toujours une personne dans la famille qui vous sauve en quelque sorte la vie parfois, quand les autres ne vous aident pas, mais une personne qui est là vraiment pour vous soutenir. C'est une sorte de mentorat naturel. Est-ce que vous avez connu ça et est-ce que ce serait en tout cas quelque chose que vous pouvez encourager au sein de la famille et c'est pas forcément les parents?
Oui, bien sûr, j'ai connu ça étant la première fille de la famille. Je sais que j'avais beaucoup de fardeaux sur moi, mais j'avais des tantes, j'avais des cousines qui étaient plus âgées que moi, qui ont vraiment aidé à mon épanouissement et puis à m'aider à enlever certaines entraves à mon niveau. Je pense surtout dans la famille africaine. C'est fréquent de trouver au sein de la famille des grandes sœurs, des cousines qui peuvent vraiment t'aider. Mais je pense au-delà de cela, au niveau sociétal, ça serait important de créer cette structure où le mentorat peut vraiment aider certaines filles qui n'ont pas ces genres de sœurs ou de cousines ou de tantes qui peuvent les aider à améliorer soi ou à créer ce self-esteem en elles. Je pense au-delà de la famille, on peut faire ça. Et aussi à tous les niveaux de la croissance de la petite fille, ce genre de cercle doit être disponible, doit être créé et être accessible à ces jeunes filles pour qu'elles soient plus autonomes, plus exprimées ouvertement, parce que c'est très important dans la société. La petite fille en général soit on réduit l'importance de son opinion ou de ses rêves. Donc, je pense inconsciencieusement, on le fait sans le savoir. Donc, je pense que c'est très important que nous soyons conscients de cela et aider, créer cet espace où ces petites filles peuvent exprimer leurs opinions, ouais, sans sans contrainte, sans préjugés et sans réduction de leurs rêves ou opinions, surtout dans la communauté africaine, surtout dans ma communauté en tant que Peul. C'est très difficile qu'une petite fille, oui, surtout même une femme à un certain niveau, de s'exprimer ouvertement.
Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que je ne sais plus sous quelle forme vous l'avez dit, mais vous avez expliqué en gros qu'on minimise un petit peu l'opinion de la petite fille. Mais nous qui sommes femmes, nous le retrouvons aussi étant adultes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne cesse jamais tout au long de la vie. Une femme, pour s'exprimer, il lui faut toujours beaucoup plus s'imposer. Donc je vais me tourner là vers Kumba. Vous êtes, hein, je le rappelle encore une fois, conférencière en motivation. Comment foncer, comment s'imposer? Parce que parfois la femme, elle doit répéter 4 fois une chose que l'homme n'aurait peut-être à dire qu'une seule fois pour être entendu.
En fait, hein, c'est vrai qu'il y a toujours des plafonds de verre que nous devons briser, mais on ne devient pas, on n'est pas leader. Le leadership que nous voulons, auquel nous aspirons, on doit le forger. Et c'est en, comme on le dit, en répétant tous les jours, que vraiment peut s'améliorer. Donc, il faudrait que cette première opportunité soit donnée. Je voudrais quand même que vous me permettez, Nathalie, de rebondir sur le fait qu'on le dit chez nous, qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et ce système de mentorat, ce système de coaching, des fois, ce n'est pas une seule personne même qui est mentor. C'est que plusieurs personnes, en fonction des différentes ouvertures qu'elles te font, en fonction des différentes expertises qu'elles proposent, donc on peut avoir, dans mon cas personnel, je peux dire que j'avais des mentors au niveau de l'école, tout ce qui était matière scientifique. J'avais des mentors au niveau de pouvoir m'affirmer au sein de la société. Comme elle a dit, ah, je suis aussi d'ethnie Peul, mais Peul mélangé avec Sonique. Donc les deux sont assez traditionnels en termes de la femme, la jeune fille, comment elle doit se comporter. Elle ne doit pas avoir grand chose à dire. Elle doit être très timide. Elle doit être raffinée. Elle doit pouvoir être subtile. Or, quand tu grandis, on te demande maintenant d'affirmer sa voix. Maintenant, comment se départir de tout ce que tu as entendu, de comment tu as été forgé de 0 jusqu'à 18 ans, et maintenant tu veux dominer le monde, tu veux t'affirmer en tant que femme politique, tu veux t'affirmer en tant que femme scientifique, tu veux t'affirmer en tant que commandant d'armée de l'air. Donc là, c'est toute skill, d'autres talents de leadership qu'on te demande, et ce n'est pas évident qu'on puisse vite, comme elle a dit, déconstruire et vite embrasser ça. C'est pour cela qu'il faudrait voir dès le bas âge, des fois, certaines femmes vont te tourner le dos en tant que mentor, mais si l'homme, le jeune garçon, un cousin, un grand frère, un oncle masculin est ouvert, pourquoi pas? Moi, j'ai beaucoup bénéficié, je veux dire, de beaucoup du soutien de mon père, plus que de ma mère.
Merci beaucoup. Écoutons à présent Irène Dembe. Elle est enseignante au Gabon.
Je pense que la clé de tout, c'est l'éducation et la prise de conscience du rôle que la femme a joué dans la société en général, notamment dans nos pays africains. Les pesanteurs culturelles constituent encore un frein justement à cette accession de la femme aux instances décisionnelles au même titre que les hommes. L'éducation est un élément clé, un élément central pour permettre à la femme d'atteindre son plein épanouissement. Nous devons justement faire comprendre à nos filles qu'au-delà des pesanteurs culturelles, elles ont un potentiel à faire valoir. Il y a le regard que la société porte sur la femme, en Afrique notamment, et il y a également justement ce regard que cette femme porte sur elle-même. Elle n'a parfois pas conscience qu'elle a un potentiel à faire valoir. Miser sur l'éducation de la femme, miser sur son niveau d'études, sur sa scolarité, ce serait, à mon sens, le meilleur moyen d'atteindre cet objectif.
On enchaîne tout de suite sur une Guinéenne, elle est web activiste, c'est Fatoumata Chérif.
Nous sommes à moins de 6 ans de l'atteinte de l'agenda 2030 et il est regrettable de constater que malgré toutes les campagnes de plaidoyer, malgré toutes les politiques rédigées en matière de genre, la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Cela est un frein à l'épanouissement des femmes et nous ne sommes représentés qu'en termes de quotas de 30%. Nous sommes encore très loin de la parité parce que même les 30% ne sont pas représentés. Les femmes ne représentent pas que des chiffres. Et aujourd'hui, le terme même égalité pose problème parce que dans nos sociétés, on a du mal à comprendre ce concept d'égalité. Lorsqu'on en parle, les gens se braquent en fait. Et ce n'est pas seulement du côté des hommes, même du côté des femmes.
Et puisqu'on était au Gabon tout à l'heure, on va y retourner avec encore une enseignante, c'est Raissa Sylvana Oyaseko. Elle est également journaliste.
En encourageant le leadership chez les filles dès le plus jeune âge, on contribue à briser les stéréotypes de genre qui limitent souvent leurs aspirations. Oui, il faut absolument enseigner le leadership dès l'enfance aux petites filles. C'est une initiative extrêmement bénéfique. Elle leur permettra de développer de la confiance en soi. Il faut pour cela les encourager à prendre des initiatives, à exprimer leur opinion et à résoudre des problèmes. Il faut par ailleurs leur proposer des activités qui encouragent l'imagination et la prise de décision afin de favoriser, de stimuler en elles l'esprit critique. En apprenant à travailler en équipe et à résoudre les conflits, les petites filles développent des compétences sociales essentielles pour toute leur vie. Il est toujours bien de favoriser des jeux coopératifs, des jeux de rôle, des activités de groupe, des projets communs permettant de développer l'esprit d'équipe et la collaboration.
À présent, une autre journaliste, cette fois-ci au Sénégal, c'est Oumi Regina Sambou.
Aujourd'hui, si on évoque la faillite de la plupart des politiques publiques, c'est parce qu'il n'y a que des hommes qui se retrouvent, qui peuvent passer à côté de plein de choses que peut-être il y a cette sensibilité féminine, ce leadership féminin permet de voir. Et aujourd'hui, pour moi, il est plus important que les femmes qui occupent des postes de décision acceptent d'aller renforcer les capacités des filles, des femmes, dans toutes les localités, aller au-delà de ce que culturellement est accepté, même mettre à contribution la religion qui parle de l'importance et du que doit jouer la femme dans la construction d'une société plus juste, plus équitable.
On retourne en Guinée pour écouter une syndicaliste, c'est Asmaou Badoukouré.
Il est important de commencer à enseigner le leadership aux filles dès leur jeune âge. On doit leur montrer des femmes qui réussissent, les encourager à avoir confiance en elles et à prendre des initiatives. Il est aussi essentiel de créer un environnement qui soutient leur développement, avec des règles qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes. Les familles, les écoles et la société doivent soutenir les filles et leur permettre de croire qu'elles peuvent occuper des postes importants. C'est ainsi qu'on pourra vraiment voir plus de femmes leaders dans le futur.
Et on termine avec la réflexion d'une architecte en République démocratique du Congo, c'est Caroline Pindinora.
Je pense que c'est important et même indispensable de pouvoir inculquer à la jeune fille des notions de leadership féminin dès la petite enfance. Parce que ça aura une incidence plus tard lorsqu'elle sera un peu plus grande et lorsqu'il faudra qu'elle prenne des décisions. Parce que aujourd'hui, quand on observe comment les parents éduquent les enfants, surtout ici en Afrique, les garçons et les filles, c'est pas la même chose. Même par rapport aux jouets qu'on leur achète. Aux garçons, on va acheter un jouet qui va le pousser à prendre des risques. Là, je vois des ballons, des voitures. En fait, on le prépare déjà à être capable de prendre des risques dans l'avenir. Alors qu'en fait, la petite fille, on va lui acheter des poupées, on va lui acheter une dinette pour la préparer à devenir mère. Et c'est déjà à ce niveau-là que se pose le problème. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'insérer un cours d'égalité des sexes à l'école. Parce que ça, je l'ai toujours prôné en tant qu'activiste de droits des femmes, de droits humains. Parce que c'est dans ce cours-là qu'on pourra apprendre aux filles les notions de leadership féminin, aux garçons la masculinité positive et également parler des violences faites à la femme ou des violences basées sur le genre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mûrir et ce serait intéressant qu'on commence déjà à apprendre aux enfants très tôt les notions pour qu'ils deviennent des bons citoyens plus tard.
Voilà, pour terminer, Oumoubin, vous avez créé une école en Guinée. Je vous poserai cette question, comment déceler finalement à l'école les futurs leaders et puis justement les épauler, les porter vers le haut très rapidement?
C'est être en contact avec eux, comme j'ai dit tantôt, créer un espace où les filles sont librement permises d'exprimer ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent faire, leurs rêves, et aussi sensibiliser les petits garçons, les sensibiliser dans le sens que ils ne sont pas supérieurs aux femmes en tant que telles, que les filles peuvent être vraiment des partenaires solides, des partenaires qui pourront vraiment aider non seulement la société, mais les aider aussi à construire une vie plus paisible, plus efficace et positive.
Kumbaba, le mot de la fin aussi, très rapidement, au niveau de la prise de parole en public, est-ce que ça aide beaucoup, ça, aux potentiels futurs leaders, les exercices pour la parole en public?
La parole en public, ça aide beaucoup, ça a forgeant cela aussi au sein de la famille. Ne coupons pas, ne bannissons pas nos enfants, surtout féminins, jeunes filles, pour qu'elles puissent prendre la parole. Nos systèmes éducatifs doivent être revus pour que l'école soit un lieu d'épanouissement au-delà de l'instruction. Aujourd'hui, nous n'avons pas des infrastructures adaptées qui permettent à d'autres d'apprendre autre chose au-delà de l'alphabet et de l'instruction classique. Et c'est dommage.
Merci beaucoup pour le mot de la fin, Kumba Ba. Merci beaucoup à vous également, Oumou Ba. Nous avions deux dames Ba aujourd'hui et moi avec vous, c'était Nathalie Barge. Voilà. Et nous avions à la production Gisèle Morissin. Restez avec nous à l'écoute de VO Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous.
Merci,
et
Nathalie.
Bon courage.
Et
merci à tout le monde.
Aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 4 octobre 2024. Les dockers américains mettent fin à leur grève après un accord de principe sur les salaires. Au sommet de la francophonie, Emmanuel Macron a plaidé pour faire de l'organisation un espace d'influence diplomatique. La Tunisie élit son président dimanche alors que les principaux opposants du sortant Kais Saied sont en prison.
Dimanche se passe cette élection qui finit par être un non-événement. Alors, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'affichage, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de meeting, il n'y a rien eu.
Frida Damani, journaliste tunisienne, nous parlera de l'ambiance à Tunis dans la partie magazine. À Maurice, les élections législatives ont été fixées au 10 novembre. En Guinée, consternation après des menaces publiques au nom de l'image du chef du régime militaire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Les dockers américains vont reprendre le travail après 3 jours de grève, ont annoncé jeudi syndicats et employeurs dans un communiqué commun. Le blocage des ports aux États-Unis menaçait de provoquer pénurie et hausse des prix à un mois de l'élection présidentielle. John Lindon.
Dès maintenant, toutes les actions en cours cesseront et tous les postes couverts par le contrat cadre reprendront, indique dans un communiqué commun le syndicat des dockers et l'Alliance maritime des États-Unis qui représentent leurs employeurs. Ils déclarent avoir conclu une entente de principe sur les salaires sans plus de précision. Mais selon le Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier, les employeurs ont proposé une augmentation des salaires de 62% sur 6 ans, qui a été acceptée par le syndicat. Quelques 45 000 membres du syndicat des dockers étaient en grève depuis mardi dans 36 ports des États-Unis sur la côte Est et le golfe du Mexique, faute d'entente sur un nouvel accord social de 6 ans. Avec cette reprise, les deux parties ont 90 jours pour tout mettre en place, a déclaré le président Joe Biden.
Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a prévenu aujourd'hui que ses alliés, principalement le Hezbollah et le Hamas, poursuivraient le combat contre Israël et défendu l'attaque aux missiles iraniens contre son ennemi juré sur fond de crainte redoublée d'un embrasement au Moyen-Orient. Les alliés de l'Iran ne récupéreront pas, a lancé l'ayatollah Khamenei dans un prêche devant des milliers de personnes dans une grande mosquée de Téhéran à l'occasion de la prière hebdomadaire. Des frappes américaines ont visé 3 villes du Yémen contrôlées par les rebelles houthis, soutenues par l'Iran, a indiqué la télévision Al-Masira, relevant des insurgés. Sans plus de détails, selon Al-Masira, ont été visés notamment la capitale Sanaa et la ville de Hodeida dans l'ouest du Yémen, où des témoins ont entendu des explosions, ainsi que Damar au sud de Sanaa, la capitale. Les autorités ukrainiennes ont annoncé aujourd'hui avoir saisi l'équivalent de près de 5 millions d'euros en espèces chez une responsable soupçonnée d'avoir aidé des réfractaires à échapper à la mobilisation militaire. Ces informations ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, alors que les structures en charge du recrutement militaire sont largement considérées comme corrompues et que l'armée ukrainienne manque cruellement de recrues après plus de 2 ans et demi d'évasion russe. Le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert en France. Dans son discours, le président Emmanuel Macron a invité ses membres à faire de l'organisation un espace d'influence diplomatique. Mouamadou Mfa.
Le président Emmanuel Macron a assuré que la francophonie était un espace d'influence et plaidé pour que ses membres portent ensemble une diplomatie qui défende partout la souveraineté et l'intégrité territoriale sans double standard de l'Ukraine au Liban. La francophonie est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté et l'intégrité territoriale partout à travers la planète, a-t-il dit devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique à l'Indo-Pacifique. Une organisation qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, a-t-il souligné, alors que nombre de pays du Sud ont refusé de condamner l'offensive russe contre son voisin. Emmanuel Macron a aussi appelé à bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens pour mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, les discours de haine racistes, antisémites. Les pays membres de l'OIF ont lancé l'appel de Villiers-Cotterêts, invitant les grands acteurs du numérique à bâtir un espace plus sûr et plus divers et à lutter contre tous ces discours de haine.
Un gang a tué au moins 70 personnes ce jeudi en Haïti et en a blessé grièvement au moins 16 autres, a indiqué l'ONU ce vendredi. Le massacre a été perpétré par des membres du gang Grand Griffe qui étaient armés de fusils automatiques. Environ 10 femmes et 3 nourrissons faisaient partie des victimes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Tunisie, le président sortant Kais Saied enlise pour un deuxième mandat lors du scrutin de dimanche, est convaincu d'être investi d'une mission divine pour sauver son pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Monsieur Saied ne fait pratiquement pas campagne, se contentant de visites dans des zones déshéritées où il dénonce des complots ourdis par les ennemis de la Tunisie. Dans ses discours, il n'hésite pas à tancer des institutions internationales comme le FMI, dont il a refusé les diktats, et un prêt de 2 milliards de dollars ou la société civile, qu'il accuse de recevoir d'énormes sommes de l'étranger. Sur les 6 candidats validés par la justice, la commission électorale en a refusé 3 et un autre, Ayachi Zamel, a été envoyé en prison. Élu en 2019, M. Saied, de 66 ans, s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. 3 ans plus tard, il a mis sur la touche les syndicats, les ONG, les partis d'opposition et les journalistes, souligne le vice-président de la FDH, venu récemment à Tunis. 3 ans plus tard, il a mis sur la touche les syndicats, les ONG, les partis d'opposition et les journalistes, souligne le vice-président de la FDH, venu récemment à Tunis.
Le président de Maurice a annoncé aujourd'hui la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives le 10 novembre prochain à l'approche de la fin du mandat quinquennal des députés. Cette annonce intervient par ailleurs au lendemain d'un accord historique entre Maurice et le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos après plus d'un demi-siècle de litiges. En Guinée, les propos du préfet de Cancan menaçant quiconque s'en prendrait au chef à l'image du chef de la junte suscitent l'émoi peu après la mort dans des circonstances troubles d'un médecin accusé d'avoir incendié le portrait du général Mamadi Doumbouya. Rosine Monizero.
Lors de l'inauguration d'une stèle en hommage au chef de l'État Mamadi Doumbouya, le préfet de Cancan a prévenu les fauteurs de troubles qui vont être tentés d'y mettre le feu. Le premier qu'on attrape, en train de faire ça, partira de la même manière que l'autre est parti, a déclaré le préfet Kandia Mara en mandingue. Ces paroles ont unanimement été perçues comme faisant référence au médecin Mohamed Diobaté, arrêté pour avoir mis le feu à une effigie du général Doumbouya à un rond-point de Cancan début septembre et mort en prison à la fin du mois. Deux personnalités de la société civile, Alpha Bayo et Ange Gabriel Haba, ont réclamé le limogeage immédiat du préfet. Des membres du Conseil national de la transition, Jean-Paul Kotembe Douno et Sayon Mara, installé par les militaires au pouvoir et faisant office d'organe législatif, ont également réclamé des sanctions. Le préfet doit être entendu sur la mort du docteur Diubaté.
Au Soudan, les combats s'intensifient avec la fin des pluies saisonnières. Les forces paramilitaires des RSF ont eu le dessus pendant la majeure partie du conflit. Mais la semaine dernière, l'armée, après avoir boudé les pourparlers menés par les États-Unis en Suisse, a lancé sa plus grande offensive à ce jour dans la capitale Khartoum, avançant sur un pont clé sur le Nil. Au Darfour, les anciens membres du groupe rebelle et les volontaires des camps de déplacés se sont mobilisés pour défendre la ville densément peuplée d'Al-Fasher, dernier bastion de l'armée dans la région occidentale, contre les vagues d'attaques des forces de soutien rapide. Les premières vaccinations contre le Mpox en République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie actuelle, commencent demain samedi à Goma, a annoncé ce vendredi le ministre congolais de la Santé, selon M. Kanga, les premiers vaccins seront inoculés donc à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, aux catégories de population jugées les plus à risque. L'Est de la RDC est la région la plus touchée par le virus. Au total, le pays a enregistré plus de 30 000 cas et près de 990 décès depuis le début de l'année, avec une mortalité accrue chez les enfants. Et puis, un tribunal sud-africain a prononcé aujourd'hui, jeudi, 42 peines de prison à vie à l'encontre d'un homme reconnu coupable de 90 viols, surtout sur des enfants, dans une affaire qui avait secoué le pays au moment de son arrestation en 2021. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Mali, le ministère de l'Agriculture a signé un protocole d'accord pour un partenariat avec OCP Africa visant à renforcer l'utilisation des engrais dans le secteur agricole. Les interventions seront menées sur trois principaux axes, l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols, le développement des centres de services agricoles et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l'agritech. L'International Development Corporation a accordé un prêt de 14 millions de dollars à Mimbos Resources pour le projet de phosphate Cabinda en Angola visant à lancer une usine de production d'engrais. L'Angola importe plus de 120 millions de dollars d'engrais par an et Cabinda pourrait en livrer annuellement 236 000 tonnes sur 20 ans. Au Togo, la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé s'ouvre le 8 octobre pour une semaine afin de valoriser et promouvoir les produits agricoles locaux. L'événement sera marqué par le concours de l'innovation agricole et des journées consacrées aux régions, à des expositions de produits, services et technologies.
Place maintenant au sport avec Eric Mandirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
L'athlète kenyane Anyango, deuxième meilleure performeuse sur 10 km, suspendue provisoirement pour dopage.
Et oui, la kenyane Immaculate Anyango, qui avait signé en janvier la deuxième meilleure performance mondiale sur 10 km, a été suspendue provisoirement pour l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'athlète de 24 ans, également médaillée d'argent du 3000 mètres au championnat d'Afrique des moins de 20 ans en 2019, a été contrôlée positif à la testostérone et l'érythropoétine, a indiqué cette unité sur son site internet sans préciser la date du test. Elle fait face à une mesure disciplinaire et est interdite de participation à toute compétition ou activité d'athlétisme jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Elle encourt jusqu'à 4 ans de suspension selon le code de l'Agence mondiale antidopage, AMA.
Football, le secrétaire général de la CAF est l'objet d'une enquête de la justice suisse.
L'enquête visant Véron Mosengo Omba, qui a la double nationalité congolaise et suisse, a été ouverte dans le canton de Fribourg, dans l'ouest de la Suisse, pour des faits présumés de malversation financière. Mais dans un communiqué publié sur le réseau social X, le secrétaire général de l'organisation basée au Caire assure que les virements bancaires visés par l'enquête sont légitimes et traçables, qu'ils ont été effectués en toute transparence et qu'ils correspondent à des salaires et bonus qu'il a reçu de la Confédération africaine depuis qu'il occupe le poste de secrétaire général. Présidée par le Sud-Africain Patrice Motsepe, la Confédération africaine de football, qui regroupe 54 fédérations,
Bataille pour améliorer son image, ternie par de multiples allégations de corruption. Son précédent président, Ahmad Ahmad, a été suspendu en 2020 pour malversation financière.
Enfin, la justice de l'Union européenne bouleverse les règles des transferts en tranchant le cas Diarra.
En estimant ce vendredi que des règles de la FIFA encadrant les mutations entre clubs sont contraires aux droits de l'Union européenne de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels, la Cour de justice de l'Union européenne bouleverse le système de transfert. À la demande de la justice belge, la haute juridiction établie à Luxembourg a examiné le cas de l'ex-international français Lassana Diarra, qui avait contesté il y a 10 ans les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou. En raison d'une réduction drastique de son salaire, Diarra avait quitté le club moscovite, mais ce dernier avait jugé la rupture abusive et lui avait réclamé 20 millions d'euros, ramené à 10,5 millions d'euros. Conséquence, le club belge de Charleroi avait finalement renoncé au recrutement du Français par crainte d'avoir à assumer une partie de ses pénalités conformément au règlement de la FIFA étudié par la justice.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza. À le coup du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les Tunisiens se rendent aux urnes dimanche pour des élections présidentielles qui semblent certaines de donner au président sortant, Kais Saied, un autre mandat, ses principaux rivaux étant emprisonnés ou écartés de la course. Joint à Tunis par Eric Manirakiza, la journaliste Frida Damani décrit l'ambiance avant le scrutin.
C'est une élection présidentielle qui se déroulera sur un tour, puisque le législateur, en l'occurrence, dans ce cas-ci, le président Kais Saied lui-même, qui est candidat à sa propre succession, c'est lui qui a décidé qu'il y aurait un tour, parce qu'il veut absolument un plébiscite, comme il l'a eu en 2019. Seulement, l'histoire ne se répète pas toujours, et cette fois-ci, il est quand même redevable de 5 ans de mandat sur lesquels il n'y a pas eu de résultat. Et surtout, on a perdu beaucoup de droits en termes de liberté, en termes de liberté d'expression. Il y a beaucoup d'opposants politiques qui sont en prison. Il y a beaucoup de journalistes également en prison pour des opinions, ainsi que des citoyens. Il suffit de mettre un post sur un réseau social pour que tout de suite ça puisse être interprété par un juge, etc. Alors, il y a 3 candidats qui ont été retenus, 3 autres qui devaient être réintégrés selon la décision de tribunal administratif ont été refusés par la commission électorale qui est acquise à Kais Saied, qui du coup a même enlevé la compétence du tribunal administratif en matière de recours pour la donner à la cour, l'attribuer à la cour d'appel de Tunis, de telle sorte que personne ne puisse plus être réintégré et que personne ne fasse entendre une voix contraire à travers le tribunal administratif. Et donc dimanche se passe donc cette élection qui finit par être un non-événement. Alors, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'affichage, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de meeting, il n'y a rien eu. Il y a eu des gens qui ont défilé dans les rues, des petits groupes avec des photos des candidats de Kais Saied en chantant des slogans, mais sans aucun programme. Il y a eu l'autre candidat qui lui a fait le tour de la République, mais en parlant aux uns et aux autres dans les cafés, d'une attitude classique mais qui n'est pas très porteuse. Il a un petit parti derrière lui et il n'a pas eu d'autre soutien officiel. Et l'autre candidat qu'on dit déjà malheureux est en prison depuis 15 jours. C'est un industriel libéral et il est en prison pour soi-disant des parrainages qui auraient été pris sur pour sa campagne électorale et qui auraient été falsifiés. Voilà, nous vivons donc un drame politique qui est surtout un grand coup porté à l'état de droit.
Et parmi les candidats, les 3 candidats de l'opposition en lice, qui pourrait faire pencher la balance et peut-être battre le président Saied?
Quelque chose peut vaincre Saied, c'est le boycott. C'est une très faible participation. ce qui lui donnerait une légitimité très réelle. Parce que c'est là tout le problème. Kais Saied détient tout l'appareil de l'État entre ses mains.
Vous parlez de boycott, mais là, on reviendrait à la politique de la chaise vide qui ne va pas aider à l'opposition ou les candidats qui s'opposent au président Saied.
Ben, ça n'a aucune importance parce qu'eux-mêmes savent très bien qu'ils feront qu'un score très bas. Même s'il y a une participation, parce qu'il risque d'y avoir un trucage, ça il faut se le dire. Kais Saied, on a beau le dire, mais Kais Saied ne laisse aucunement la place à un concurrent quelconque.
Frida Adamani, journaliste tunisienne. Une ancienne réfugiée burundaise vivant au Burkina Faso depuis près de 25 ans a fondé une usine spécialisée dans la production de farine enrichie. Cette initiative vise à soutenir les enfants en situation nutritionnelle précaire, en particulier les déplacés internes. La VOA a rencontré Inge Iteka pour explorer son parcours et son engagement. Ce reportage est réalisé par Gildas Da.
À plein régime, ces moulins industriels produisent de la farine enrichie pour enfants. Il faut tout un processus pour obtenir le produit fini dans cette usine dénommée MTA, moulin de transformation agricole. Un produit à base de maïs, petit mil, soja, destiné prioritairement à une catégorie de personnes selon Ing Iteka, promotrice de l'usine.
Les produits finis sont destinés aux personnes vulnérables, aussi aux enfants, pour une bonne croissance. Ça veut dire à partir de plus de 6 mois, on peut consommer la farine. C'est une farine instantanée.
Ayant fui son pays d'origine, le Burundi, Ing Iteka s'est réfugiée au Burkina il y a 25 ans. Elle va d'abord ouvrir une agence de voyage qui va fermer du fait du Covid. De là, naît une autre idée.
Et pour ne pas renvoyer les employés, on a commencé à produire à la maison. Donc la salle de billetterie, on a transformé en salle de production et on a pu supporter pendant 6 mois.
Au fil des ans et au regard de la situation humanitaire du Burkina dont elle a depuis acquis la nationalité, Ing Iteka décide de passer à une échelle de production plus grande et aider à la prise en charge d'enfants déplacés internes en situation nutritionnelle difficile. De cette usine inaugurée récemment vont sortir 12 tonnes de farine enrichie par jour et respectant les normes requises, comme nous le dit Samiratou Bonkungu, responsable qualité de l'usine.
Nous respectons les bonnes pratiques d'hygiène et de production. Après production, nos farines aussi, nous allons faire des analyses physico-chimiques et des analyses microbiologiques. Avec ces résultats, nous pouvons confirmer que nos farines sont de qualité.
Selon la promotrice de l'usine, les farines sont faites à base de produits locaux.
Nous utilisons la matière première locale, et ce qui permet un développement de la zone rurale. Mais aussi, nous travaillons avec les associations des femmes et des jeunes.
Un impact sur la communauté dont se réjouit Agiratou Sauré, représentante du président de la délégation spéciale de l'arrondissement où l'unité de production est installée.
En plus des emplois locaux qui vont être créés, elle soutiendra l'économie et offrira une des solutions en matière de nutrition qualitative pour les enfants. Nous célébrons également la force collective de notre communauté.
Près de 500 groupements, associations et autres organisations paysannes assurent la fourniture de l'usine inaugurée il y a peu en présence du ministre de l'Agriculture, dont le département a aussi appuyé l'initiative. Avec cette structure, Ing Iteka espère contribuer à une meilleure situation nutritionnelle des enfants déplacés internes et de ceux des familles démunies. Pour elle, cela est un engagement. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La République démocratique du Congo se qualifie de pays solution pour les problèmes liés au climat. Le pays a pris part à la Semaine du climat à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Antoine Roger Bolamba a eu un entretien avec Jean-Jacques Boutamba Bolé, coordonnateur de l'unité de gestion des tourbières au ministère de l'Environnement et du Développement durable en RDC.
La RDC fait partie de ce que nous appelons le bassin du Congo, aux côtés des autres bassins qui, à travers le monde, dont les écosystèmes contribuent énormément à l'atténuation du climat mondial. Je venais de parler du bassin du Congo. À côté du bassin du Congo, nous avons le bassin du Mekong-Bornéo, dans lequel nous avons l'Indonésie. Mais aussi, nous avons le bassin de l'Amazonie, avec lequel ou dans lequel le grand pays, en termes de superficie des écosystèmes, se trouve être le Brésil. Alors, depuis l'accord de Paris, les États ont pris l'engagement, chacun de son côté, de pouvoir développer ce que nous appelons la contribution nationale déterminée. Ce sont en fait des efforts qui permettent au pays de dire comment voilà, en termes d'atténuation de gaz à effet de serre, nous allons partir du point A vers le point, par exemple, Z. Et sur la ligne de temps, nous allons faire tel travail, tel travail, tel travail pour pouvoir réduire nos émissions. C'est une contribution qui est en fait volontaire. Mais on se rend compte que malgré cette dynamique de pouvoir mettre en place les contributions nationales déterminées, les efforts qui sont développés ou implémentés par les pays ne sont pas suffisamment valorisés. Alors d'où le problème, comment faire en sorte que les pays de ces trois bassins, dont les écosystèmes contribuent énormément à l'atténuation du climat mondial, puissent être rétribués. Alors le travail que nous faisons dans ce genre de semaine sur le climat, c'est de discuter avec nos partenaires, qui sont essentiellement le pays du bloc Nord, pour leur dire, bon voilà, nous sommes en train de faire tel effort, merci de pouvoir regarder comment cet effort peut être reconnu. Donc les discussions ont essentiellement porté sur ce genre de dynamique.
Pensez-vous que la voix de la RDC a été entendue ?
Oui, la voix de la RDC a été entendue et nous allons avoir encore d'autres opportunités de pouvoir faire entendre notre voix parce que, comme vous le savez, chaque année, il y a toujours ce que nous appelons des conférences des partis où les pays se réunissent avec des différentes dynamiques qui sont impliquées dans la démarche de la réduction des émissions des gaz à effet de serre et donc on va avoir énormément d'opportunités. Mais pour cette fois-ci, nous sommes venus insister sur un certain nombre de choses et nous avons foi que, bon voilà, nous avons été entendus. Sinon, la dynamique va continuer.
Jean-Jacques Bambuta Bolé, du ministère de l'Environnement et du Développement durable en RDC.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Les bombardements israéliens contre le Hezbollah au Liban ont contraint de nombreuses personnes à fuir leur domicile pour se mettre à l'abri. Parmi les familles jetées sur les routes, des Africains dont une famille soudanaise qui vivait dans le sud du Liban et qui a trouvé refuge dans une église à Beyrouth. Davantage avec Yacouba Ouedraogo.
Après avoir fui la région soudanaise du Darfour, déchirée par la guerre il y a des années, et trouvé refuge au Liban, cette famille de migrants soudanais est à nouveau déracinée. Résidant auparavant à Ankoun, dans le sud du pays, elle a dû fuir les bombardements causés par le conflit entre Israël et le Hezbollah.
Dieu merci, nous avons atteint l'église et nous vivons ici, mais ce n'est pas non plus un avenir. Mon pays, le Soudan, vit dans la guerre, dans la souffrance. Je ne peux pas y retourner, car mon pays n'est pas sûr. Je ne sais même pas où sont mes parents. Depuis que j'ai quitté le Darfour, je ne sais pas où ils sont. Nous avons été déplacés au Soudan et ici, nous sommes également déplacés. Nous ne sommes plus en sécurité.
Malika Jouma, son mari et leurs deux jeunes enfants font partie des nombreux migrants et réfugiés qui ont trouvé refuge à l'église Saint-Joseph de Beyrouth suite à une série de frappes aériennes israéliennes au Liban.
C'est une bonne chose que l'église ait offert son aide. Nous allions rester dans la rue. Où serions-nous allés? Nous vivions sous un pont, ce n'est pas sûr. Si nous rentrons chez nous, ce n'est pas sûr. Ils frappent partout.
L'église qui est devenue un sanctuaire pour les travailleurs migrants au Liban a ouvert ses portes pour offrir un refuge sûr à ceux qui ne peuvent pas trouver d'abri ailleurs. D'après le directeur du projet du service jésuite des programmes pour les migrants, Michael Petro, le nombre de migrants cherchant refuge à l'église a augmenté de façon spectaculaire.
Hier, nous avions 120 personnes dans notre parking que nous n'avons pas pu accepter. La veille, nous en avions 150 et lorsque nous avons essayé de les envoyer dans des centres d'hébergement gouvernementaux, ils ont d'abord été acceptés avant d'être expulsés par la police le lendemain matin. Nous constatons donc que les travailleurs migrants et les réfugiés des pays africains n'ont nulle part où aller en ce moment et que l'accueil est vraiment très mauvais.
Près de 1900 personnes ont été tuées et plus de 9000 blessées au Liban. En près d'un an de combats transfrontaliers, le plus grand nombre ayant été enregistré au cours des deux dernières semaines, selon les statistiques du gouvernement libanais publiées mardi.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui.